France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille une immense figure du cinéma. Vous connaissez tous Z, L'Aveu, Clair de Femme et plus près de nous, Amen, Le Capital et tant de films qui ont fait la gloire de Costa Gavras en France et dans le monde. Il revient aujourd'hui à son pays natal avec un film percutant sur le face-à-face entre la Grèce et l'Union Européenne. Une occasion de retracer la vie de Costa Gavras en musique avec Yves Montand, Mikis Theodorakis et tous les autres. Mais pour bien commencer et sans plus attendre, la jeune génération me prie de lui laisser la place.
Age calls the tune, youth sober soon, that is the natural law. There's a younger generation, knock, knock, knocking at the door. Why sit and fret, vainly regret, things that have gone before? There's a younger generation, knock, knock, knocking at the door. Though the world is well lost for love dream, there's wisdom above dreams to compensate mothers and wives. When the joys of youth have passed them, this should last them all their lives. I've had my fun, all that is done, why should I sigh for more? There's a younger generation, knock, knock, knocking at the door. Younger generation, knock, knock, knocking at the door.
The Younger Generation, une chanson de l'excellent auteur et compositeur britannique Noël Coward. Alors vous l'avez compris, ça n'est pas la nouvelle génération de Greta Thunberg, ni celle de mai 68, mais la jeune génération de 1932. C'est ainsi, il y a toujours une nouvelle génération qui découvre la vie et qui prétend même parfois nous l'expliquer. Thank you. Et là, c'était la jeune génération de la Bastoche en 1946 avec le merveilleux Tony Murena, son ami Didi Duprat à la guitare dans cette valse intitulée Minouche. Ça devait être le prénom d'une de leurs amies.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais le moment est venu d'accueillir mon invité. Son nouveau film est à l'affiche un peu partout en France cette semaine. Il s'intitule Adults in the Room, un titre en anglais. Il nous expliquera pourquoi. C'est en tout cas un face-à-face terrible entre la Grèce et l'Union européenne au moment de la crise économique que nous avons tous suivi. Et ce film, surtout, à la force des œuvres de ce réalisateur qui, depuis 60 ans, nous envoûte par ses histoires tout en nous aidant à mieux comprendre le monde où nous vivons. J'ai la joie d'accueillir ce matin Costa Gavras. Costa Gavras.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous m'avez fait plaisir en me proposant d'écouter du Offenbach, mais je vous avoue que spontanément, en pensant à vous, j'aurais pas pensé à Offenbach, à cette frivolité, à cette légèreté. C'est pas vraiment le monde de votre œuvre, en tout cas.
Non, moi, je dirais la frivolité, la légèreté, mais je dirais aussi la tendresse. Oui. Ce que j'aime beaucoup, en tout cas, dans tout l'Offenbach, mais particulièrement là, c'est que tout d'un coup, il y a cette tendresse et tout d'un coup, ça explose.
Oui,
et ça répare. Oui. C'est la nature humaine, parfois. Et c'est ça qui est très beau.
Voilà, et puis on peut dire qu'Offenbach, d'une certaine façon, a démonté les ressorts de la société d'une façon musicale, tout comme vous avez aussi démonté les ressorts de la société dans vos films, qui sont parfois graves, mais qui sont aussi parfois légers, parce que la dimension comique, dans certains de vos films, en tout cas, est également présente.
Hein. C'est indispensable.
Oui.
Nous faisons un spectacle, quand même. Nous ne faisons pas des discours académiques avec le cinéma.
Voilà. Voilà, exactement. Merci, en tout cas, voilà. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur France Musique pour évoquer en musique, justement, quelques aspects de votre vie et de votre œuvre. À commencer donc par ce film qui sort dans quelques jours, Adults in the Room,
titre en anglais. Titre anglais, et le film est en anglais et en grec en partie, parce qu'en Europe on parle l'anglais, et en Grèce on parle le grec naturellement. Mais j'ai gardé le titre anglais parce que cette phrase a été dite par Madame Lagarde, ouais. Après avoir assisté à plusieurs réunions, elle s'est aperçue que ces réunions s'est passé très très mal. Et pendant ces réunions, on parlait de la dette grecque, ouais. Et tout le monde disait, et elle a dit, la première, le peuple grec n'a pas les moyens pour la payer. Et après, tout le monde, tous les autres Européens, disaient, il faut la payer, il faut la payer. Et surtout les Allemands, il faut la payer. Donc après un moment, elle a dit cette phrase qui dit, il faut des adultes dans cette... Pour parler sérieusement, voilà.
Ce qui était assez méprisant pour les Grecs, on peut
méprisant
dire.
Méprisant et humiliant aussi.
Et humiliant, oui, et oui, c'est évidemment oui. Le sujet de ce nouveau film, dans lequel effectivement, oui, la langue anglaise apparaît comme la définition même de la langue des maîtres aussi de cette Europe.
Oui, et pourtant, les Anglais n'ont jamais été complètement dans l'Europe.
Oui, oui.
On devrait imposer le français, ou en tout cas l'anglais et le français éventuellement, mais on a imposé peu à peu que l'anglais, malheureusement.
Alors ce qui est aussi, on y reviendra plus longuement tout à l'heure, mais frappant dans ce nouveau film qui sort mercredi, c'est que d'une certaine façon, vous retournez vers la Grèce, votre pays natal, ou c'est plutôt la Grèce qui est revenue vers vous avec une sorte de tragédie prête à presque à adapter au cinéma.
C'est les deux, parce que la Grèce m'a, d'une certaine manière, m'a interpellé. Ouais. Parce que, bon, la première fois que moi j'étais parti de la Grèce, j'ai fui la Grèce quand j'étais jeune, étudiant, parce qu'il me fallait un pays où je puisse étudier, travailler éventuellement, et je suis venu en France.
Vous êtes devenu français, c'était... cinéaste
absolument,
français,
absolument.
De nationalité française.
Et alors, la première fois que la Grèce m'a interpellé, c'est quand il y a eu la dictature. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis senti profondément, pas vexé, seulement humilié, je dirais. Et puis j'ai fait un film, j'ai fait Z.
Ouais. Voilà.
Et puis après, quand la dictature a terminé, que la vie a continué, ça allait bien, bon. Et puis, là, de nouveau, il y a fait 10 ans,
oui,
quand la crise énorme a commencé, et je me suis de nouveau interpellé, je suis allé en Grèce.
Vous êtes senti concerné?
Mais profondément concerné, surtout que je suis allé sur place et j'ai vu les gens de ma classe essentiellement, c'est-à-dire de la petite, moyenne classe grecque, qui souffrait énormément. Ils avaient perdu leur travail, et puis les salaires ont beaucoup baissé, les taxes ont augmenté, des milliers de jeunes partaient, il y avait 1000 jeunes qui partaient par mois. Il y a 500 000 aujourd'hui, 500, 600 000 qui ont quitté des diplômés, qui sont partis à l'étranger parce qu'ils étaient au chômage et ils n'avaient pas d'avenir. Donc tout ça m'a touché profondément. Je me suis dit, il faut faire un film. Et je commençais à travailler et réunir du matériel, mais j'ai pas trouvé tout ce qu'il me fallait pour réunir un film. Alors, à moins de faire un mélogramme sur place avec les difficultés des gens, des familles et tout ça. Mais je voulais quand même introduire un autre personnage dans cette âme qui était l'Europe. Donc ouais, j'ai cherché comment l'Europe faisait, et surtout ce qui s'est passé à l'intérieur des réunions,
voilà,
où les décisions étaient prises. Voilà.
Ce face-à-face théâtral entre les puissants et les dominés, et faibles, comme
c'est
vous
ça,
dites.
Les dominés,
les dominants et les dominés,
voilà, il y avait cette idée-là. Voilà. Et je l'ai trouvé tout cela dans le livre de Varoufakis, qui était en train de l'écrire, qui m'a donné...
L'ex-ministre des Finances,
qui a fait...
On connaît bien, pour l'avoir vu beaucoup sur les médias.
Voilà, et j'ai trouvé dans ce livre les parties qu'il me fallait pour le scénario.
Voilà, et ça donne ce film magnifique qui vient de sortir, qui fait beaucoup réfléchir. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un film militant, parce qu'on reviendra à cette notion, je ne sais pas si... Parfois...
Non, absolument, il faut préciser ce qu'est le militant et qu'est la militance. Voilà. Voilà.
Mais quoi qu'il en soit, avant d'y revenir, je propose, puisque c'est un peu l'habitude dans cette émission, qu'on remonte un petit peu dans le temps avec vous, Costa Gavras, qu'on remonte dans le temps, bien sûr, en musique.
Χάσα τη χαρά μου.
Alors les auditeurs se demandent peut-être ce que c'est que cette musique aux consonances très orientales. Comme ça, c'est de la musique grecque traditionnelle.
La musique grecque, oui, racine orientale évidemment, oui. Mais traditionnelle grecque aujourd'hui, c'est une
chanson mélancolique. Hein.
Mélancolique, absolument, parce que ça vient de l'Orient. Toujours, il y a la mélancolie qui s'impose. Mais il a fait aussi des chansons très très gaies, très intéressantes.
Protomos Tsouzakis, oui, musicien avec Tsitsanis,
oui, absolument. Voilà. On pourrait dire qu'il est influencé, ou je ne sais pas, même s'il connaissait la poésie française, mais c'est des paroles qui sont proches, ou d'une manière, en tout cas sentimentale, de Paul Verlaine.
Ah oui, c'est
absolument,
ça.
Absolument, parce qu'il pleure, dit-il. C'est un dimanche où il pleure, et c'est un dimanche très triste. Ça fait penser un tout petit peu,
il pleure dans mon cœur comme il pleure sur le toit.
Voilà, cette idée-là. Voilà.
Ah, c'est très joli, en tout cas.
C'est un dimanche pluvieux, et c'est un dimanche pluvieux comme celui-ci, où il a perdu sa joie. Il ne dit pas « mon amour, ma joie ».
Voilà. Et alors, je voulais commencer avec ça, Costa Gavras, parce que, en lisant votre passionnant livre de mémoire, hein, « Va où il est impossible d'aller », qui est paru au Seuil il y a un peu plus d'un an, j'ai découvert que votre premier voyage à Paris, c'était dans le cadre d'un spectacle de danse traditionnelle.
Traditionnelle.
Vous avez été danseur avant d'être cinéaste.
Non, en fait, la chorégraphe, c'est mon amie. Et je suis venu avec elle, et donc j'ai appris à danser un tout petit peu. Vous savez, les danses traditionnelles grecques n'exigent pas d'avoir une facilité de danseur classique, absolument. Ouais. Il faut être assez robuste, j'étais très jeune, donc je dansais un peu, mais j'ai surveillé beaucoup les répétitions quand elles ne pouvaient pas. Donc je faisais ça et j'ai appris, et la troupe est venue à Paris.
Voilà.
C'est venu à Paris après avoir passé par Neuchâtel, en Suisse, et Chaudefonds, vous savez, ça me souvient encore.
Voilà, vous étiez
et on a
chanté
au Théâtre des Champs-Élysées.
Au Théâtre des Champs-Élysées.
Pendant une semaine.
Et voilà, et j'ajoute encore, d'ailleurs pour parler de vos débuts pas connus, hein, que ce même Théâtre des Champs-Élysées, vous y avez par la suite fait quelques figurations. Hein,
on
dans
fait
Boris Godounov,
oui.
Dans Les Caprices de Marianne d'Henri Sauguet.
Et dans Sauguet, absolument, je faisais Sébastien Assassin, l'assassin de la faim. Et puis aussi, j'ai fait la figuration dans un ballet classique, et c'était vraiment une joie formidable. C'était Babylée. Qui dansait.
Jean Babylet, que vous avez connu que de cette façon.
Que j'ai rencontré beaucoup plus tard, je lui parlais de cette histoire. Voilà. Non, c'était une période très, très heureuse, parce que j'étais déjà à l'université, puis à l'école du cinéma. Donc ma vie avait changé radicalement par rapport à la vue plutôt obscure et sans futur que j'avais en Grèce.
En Grèce. Donc vous aviez choisi de vous installer à Paris, vous entrez à l'université. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'au fond, vous avez plutôt découvert d'une certaine façon la vie à Paris, mais les gens voulaient toujours vous ramener au fait que vous étiez grec, ils vous sortaient des clichés sur la Grèce, ils vous posaient des questions sur les îles grecques, et vous n'étiez jamais allé dans les îles grecques. Vous n'aviez rien de la Grèce, en fait.
Ma famille n'évoque pas les moyens de sortir de l'endroit où on vivait. Donc, je découvrais une Grèce que je ne connaissais pas du tout. Et puis, un amour pour la Grèce que je ne connaissais pas du tout. Voilà.
Voilà.
Mais bon, ça ramenait à une certaine fierté, bien sûr. Mais ça m'intéressait de moins en moins. Ce qui m'intéressait, c'est les études en France. Voilà. Et aussi la vie que je faisais à Paris.
Et assez rapidement, le cinéma, puisque vous êtes entré à l'IDEC.
À l'IDEC, l'école du cinéma.
Voilà.
Et aussitôt sorti, j'ai pu travailler avec des metteurs en scène assez importants.
Voilà.
Et allait en avant très, très, très vite, grâce à Claude Pinoteau, qui était premier assistant, qui m'a pris très vite comme deuxième assistant, voilà.
Voilà, alors il a joué un rôle très important
très
dans
important.
Votre vie, Claude Pinoteau, parce qu'il vous a fait effectivement entrer dans le métier à la sortie de l'IDEC, et assez vite aussi, c'est votre talent, vous avez été repéré comme un assistant recherché.
Oui. Voilà, oui, j'ai travaillé beaucoup pour avoir fait le deuxième assistant-là, le premier assistant-là, oui.
Et notamment, par exemple, vous avez travaillé, c'est passionnant, avec René Clair, que vous avez beaucoup aimé. Hein.
Beaucoup, beaucoup, on est devenu même peu à peu amis, parce qu'il y avait une différence d'âge quand même, mais on est devenu amis. Je lui ai montré mes films par la suite et il aimait bien que je lui montre mes films, mais moi aussi. Et après, j'ai pu travailler aussi avec d'autres, comme Henri Verneuil, avec Jacques Demy, avec René Clément, j'ai fait aussi des films. Non, c'était une découverte formidable du cinéma.
Mais alors, vous étiez un jeune, je ne veux pas dire un jeune loup, c'est peut-être pas votre tempérament, mais enfin, vous sortiez de l'IDEC, vous étiez jeune et moderne, et vous aviez donc forcément reçu un peu l'influence de vos contemporains de la Nouvelle Vague, et la Nouvelle Vague est crachée sur tous ces grands cinéastes-là qui étaient vos aînés et que vous aimiez.
Oui. J'en ai vu quelques-uns qui étaient très très malheureux, très malheureux.
René Clément, Clair.
Il ne se plaignait pas beaucoup, mais il laissait entendre quand même. Ceci dit, j'en ai vu un qui était en larmes, je dirais.
Ouais.
Parce qu'il disait, mais qu'est-ce qu'ils ont contre nous, Costa, vous êtes jeune, me disait, vous les connaissez, qu'est-ce qu'ils ont contre nous? Enfin, d'une certaine manière, c'était une génération qui devrait écarter
l'autre, c'est comme ça que vous l'expliquez.
Et faire, voilà. Ils ont imposé un autre style de cinéma qui était vraiment formidable, qui était changé le cinéma dans le monde aussi. Mais eux-mêmes, ils étaient d'une certaine manière les enfants du néoréalisme italien.
Il fallait tuer le père, quoi.
Il fallait éliminer en tout cas le père, oui.
Mais vous, vous admiriez ce cinéma d'avant, ce cinéma de Claire, de Carnet, de Duvivier.
Ah, moi, j'aimais beaucoup. On était tous nourris par cela. Tout le monde allait voir ce cinéma. On avait appris beaucoup de choses. J'ai travaillé un peu avec Clouzot. On adorait Clouzot. Vous comprenez? Mais on a commencé aussi peu à peu à s'habituer quand même au nouveau. Au Godard, au Truffaut, au Chabrol, enfin tout, toute cette génération de cinéastes français qui ont fait beaucoup de beaux films. Et aussi, ils ont influencé énormément le cinéma dans le monde.
Dans le monde, c'est ça qui est très important. Alors, dans ces années d'assistant, Costa-Gavras, vous avez fait des rencontres décisives et notamment une certaine rencontre qu'on associe évidemment toujours beaucoup à certains de vos films.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on boit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. V'là l'ennui. À Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Yves Montand, juste après la guerre, Yves Montand, alors dans cette chanson célèbre de Francis Lemarque, avec, je précise, au piano, Bob
Castella.
Castella. On peut dire que vous les avez connus en même temps, parce que...
En même temps, forcément, oui.
C'était son musicien, ils étaient tout le temps ensemble.
C'est tout de l'homme, oui. Ils avaient des relations absolument extraordinaires. La première fois que je suis arrivé chez eux, j'ai entendu des cris de l'autre côté, la porte était fermée, des cris terribles. Bob, tu fais ceci, tu fais cela. J'ai dit, bon, il va y avoir du sang. Et puis Simone est sortie, elle est venue me rejoindre, tout tranquille, comme si rien n'était. Et bon, elle est partie. Et à la fin, on a déjeuné ensemble pour lui parler des histoires du film qu'elle faisait avec Clément, dont j'étais l'assistant. Et Montand est venu nous voir avec Bob Castella. Ils m'ont présenté, ils étaient souriants tous les deux. Rien n'avait, il y avait cette relation passionnelle. Et Bob écoutait. Et il disait, Monsieur Montand, je vous le joue une fois.
Il est joué. Ah, il le vous voyait quand même.
Ça dépend les moments.
Ça dépend les moments. Voilà, en tout cas, là, c'est un bel enregistrement de mon temps, avec le chanteur et l'acteur, d'ailleurs, aussi. Vous l'avez connu en même temps que Simone Signoret, effectivement, comme assistant d'un film de René Clément.
René Clément, Le Jour et l'Heure, oui.
Le Jour et l'Heure. Et puis, en fait, ce sont donc devenus des amis bien avant qu'ils commencent à travailler pour vous, si j'ose dire, dans des films. Hein. Ils ont même joué un rôle déterminant dans votre évolution au cours de ces années-là.
C'était essentiel pour moi dans mon apprentissage de la France, de la politique sûrement aussi, et du cinéma d'une certaine manière, puisque je suis entré au cinéma parce qu'ils ont accepté de faire mon premier film.
Oui, c'est ça.
Oui, moi je les ai connus d'abord pendant le film, et un jour Simone m'a présenté Montand, elle m'a dit « voilà l'autre immigré ». Voilà, c'est ça. Et puis très peu après, Montand me dit un jour chez eux « tu joues au volleyball toi ?» Je dis « oui ». Il m'a dit, week-end, si tu n'as rien à faire d'autre, viens à la campagne. Et c'est comme ça que je suis allé à la campagne. Il y avait d'autres jeunes aussi. Ouais. Et on a joué au volleyball. Et puis, ils m'ont demandé une autre fois d'aller chez eux. Moi, j'écoutais. Les soirées étaient absolument magnifiques. Il y avait des conversations politiques, mais d'une autre façon que j'avais connue, soit à l'université à Paris, à la Sorbonne, soit dans la vie quotidienne. Ils abordaient les problèmes politiques d'une manière tout à fait différente, avec calme, sans fanatisme.
Voilà. Parce qu'ils étaient quand même très liés au Parti communiste encore à l'époque.
Ils n'étaient pas membres, ils étaient proches.
Oui.
C'était comme des compagnons de route, comme disait à l'époque. Oui. Mais ils étaient déjà sur la sortie, c'était une sérieuse sortie, où ils étaient déjà sortis, disons. Et ils en parlaient, mais de nouveau, sans fanatisme. Sans dire, on s'est trompé complètement. Ils disent, on a fait ça, pourquoi? Et eux, ils font aussi. Vous voyez, c'est des vrais approfondissements de la vie politique.
Alors, vous avez été un peu, on peut dire, un protégé, on peut dire, de Simone en particulier, qui a suivi vos débuts, qui a lu votre premier scénario, et puis qui, effectivement, vous a permis de le tourner en acceptant de jouer dedans et montant.
Absolument. Simone s'intéressait beaucoup à la Grèce. À l'époque de la guerre civile, on exécutait les gens comme vraiment, on tue n'importe quoi. Et me dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Elle connaissait, mais d'une manière très théorique, la guerre, grâce à Axel Kostas Axelos, le philosophe dont elle était amie à l'époque là. Et moi, je connaissais la vie quotidienne de mon père et adorais que je raconte la vie quotidienne parce qu'elle aimait apprendre l'autre côté de la vie, que la vie politique, disons, au niveau très élevé. Et c'est comme ça qu'on est devenu assez proche, que le jour où il a fait mon père un scénario, elle m'a dit, si tu veux, je ne pensais jamais, moi, de proposer de faire. Elle m'a dit, si tu veux, moi, je te fais. Elle disait la vieille actrice.
Vous ne l'aviez même pas demandé. Hein,
oui, non, surtout pas. Je n'aurais jamais osé. Ce n'était pas un grand rôle important. C'était un rôle très secondaire. Elle l'a accepté. Et comme ça, le film a pu se faire.
Et d'ailleurs, avec un certain succès, votre premier
film. Oui, avec un gros succès ici et partout.
Vous a permis de continuer. Dans la petite bande, justement, de ses proches, des week-ends à la campagne, etc., il y avait un autre personnage important, c'était Georges Semprin.
Semprin qui était là tout le temps.
Qui était là tout le temps.
C'est un personnage mystérieux. Oui. On ne savait pas beaucoup, on ne posait pas des questions. Simone me disait, non, on ne te pose pas des questions. Jusqu'un jour, quelques mois après, elle m'a apporté un livre, elle me dit, tiens, lis ça, tu verras qui est Georges Semprin. Et j'ai découvert Georges Semprin qui était d'abord, un homme politique, presque du Parti communiste espagnol. Il avait quitté le parti avec fracas et il avait écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Long Voyage.
Voilà, et c'est lui qui va donc travailler avec vous.
Après, on a travaillé ensemble.
Premiers succès, et notamment pour Zed.
Zed et puis l'aveu, etc.
Voilà donc comment les choses se sont déroulées. Il y a une autre chose qui m'a un peu frappé, c'est que dans l'histoire de Zed, en fait, vous êtes allé voir votre famille en Grèce, et puis votre frère vous a offert le livre.
Le livre m'a dit, lis ça.
Ça parlait d'un assassinat dans le passé, mais juste après, vous avez commencé à travailler au film, et le coup d'État s'est produit à nouveau en Grèce.
C'est ce qui s'est passé. C'était presque miraculeux, si je dois dire, parce que j'arrive à Paris, j'ai fini le livre, un samedi, dimanche matin, Georges Semprin m'appelle, il m'a dit, tu as vu ce qui se passe en Grèce, c'est la dictature.
Voilà.
On se rencontre après, tout le monde essaye de faire quelque chose, signer des pétitions, aller faire du sitting devant l'ambassade grecque, etc. Et je dis, moi je vais faire ce livre, faire un film. Il m'a dit, tu veux travailler avec moi? Tu dis à Georges. Il a accepté immédiatement, et c'est comme ça qu'est partie l'aventure de Z.
Et alors, dans l'aventure de Z, évidemment, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'était évident pour vous, mais que vous avez choisi pour la musique, c'était Mikis Theodorakis, le grand compositeur grec qui est toujours parmi nous d'ailleurs.
C'est évident d'abord, parce qu'il avait vraiment une réputation formidable, il avait des positions anti-militaires profondes, et c'est un homme formidable, un grand musicien. Et j'ai voulu sa musique, et c'était impossible. Il était en prison.
Voilà.
Dans la montagne, dans une...
Exilé,
essentiellement. D'abord, ma femme a été pour lui demander les droits de sa musique, ou elle aussi pouvait travailler sur la musique, mais elle n'a pas pu passer, malgré le fait qu'elle était avec son passeport de jeune fille. Et puis Jacques Perrin, il a été le trouver, il a réussi à passer la police et tout cela. Theodorakis lui a donné un petit mot en disant, voilà, Costa peut prendre ma musique qu'il veut dans l'ensemble de ma musique. c'est-à-dire dans des heures et des heures, je ne sais pas, mais 203 heures de musique. Ouais. Et j'ai fait une recherche et il a pris des morceaux qu'on a adaptés pour la longueur qu'exigeaient les scènes où j'ai mis la musique. Et j'ai demandé au collaborateur de Michel Magne de le faire, parce que Michel Magne n'était plus là, malheureusement. Et c'est lui qui nous a fait...
Bernard Gérard. Voilà. Nous allons d'ailleurs là entendre Mikis Theodorakis dans un des thèmes du film, mais c'est lui qui le joue au piano, avec un peu d'accompagnement vocal, si j'ose dire, thème que vous avez repris dans le film de façon instrumentale.
Absolument.
Στα μάτια το κοιτώ και το κοιτώ και δε μιλώ. Απόψε, απόψε που έχει τον καημό. Απόψε, απόψε που έχει τον καημό. Βδομάδα πάει χωρίς δουλειά και ξοφιονίζει και πίσω, χωρίς τσιγάρο και δουλειό. Απόψε, απόψε μου σφίζει την καρδιά. Απόψε, απόψε μου σφίζει την καρδιά. Το παλικάρι έχει καημό και το μιλώ και δεν μιλώ. Τα μάτια του είναι δυο πουλιά. Απόψε, απόψε το δάκρυ μου κυλά. Απόψε, απόψε το μάτι μου κυλά.
Voilà, et c'était donc Mikis Theodorakis qu'on entendait et qui jouait ici du piano, ce grand musicien. Je ne sais pas si vous avez toujours des relations avec lui,
oui,
Costa Gavras.
Oui, je l'ai vu avant de commencer le film, c'est-à-dire à peu près il y a un an, en janvier, l'un de cette année-là. Bah, il arrive à un âge où il reste beaucoup de temps un peu assis. Enfin,
il a près de
95 ans. Il écrit beaucoup de choses.
Il compose.
Mais il écrit aussi ses mémoires et ce qu'il pense sur la société, sur la politique et tout. Oui.
C'est une gloire nationale, j'imagine,
en Grèce. Total. C'est l'homme qu'on adore en Grèce.
C'est l'homme qu'on adore, bien sûr. Et on l'adore en France aussi, d'ailleurs, même si on n'a pas eu depuis très longtemps l'occasion, évidemment, de le voir ici.
Mais pour la petite histoire, vous savez, quand il y avait la dictature, que les policiers ont perquisitionné sa maison, ils piquaient les disques pour les écouter chez eux.
Ah oui, c'est assez joli ça, effectivement. Alors voilà donc en tout cas Z, ce grand succès oscarisé qui a fait de vous un cinéaste de renommée mondiale, Costa Gavras. Tiens, je dis Costa Gavras parce que j'ai vu dans votre livre que parfois on vous appelait Constantin Costa Gavras parce que Constantin c'est votre vrai prénom, mais en fait Costa c'est déjà le diminutif
c'est
de Constantin.
C'est déjà le diminutif de Constantin. Alors, donc
quand on dit Costa Gavras, ça suffit.
Ça suffit largement.
Alors oui, justement dans tous ces films de vos débuts, eh bien la musique est présente à travers différents artistes. Là, c'était Theodorakis qui a d'ailleurs également été musicien de État de siège. Ça a été Michel Magne dans Compartiment Tueur, votre premier film. Ça a été Philippe Sartre dans un certain nombre de films.
On a beaucoup travaillé ensemble aussi, oui.
Voilà, Jean Musy dans Clair de femme.
Aussi dans Clair de femme, oui.
Alors
oui.
Voilà, des musiciens que vous avez choisis au fil des films et peut-être en fonction des films, mais finalement. C'est quoi pour vous le rôle précis de la musique dans votre travail de réalisateur et d'auteur?
Moi, j'ai
de cinéma
toujours pensé, pour avoir beaucoup étudié ce qu'on appelle la bande sonore d'un film, j'ai beaucoup pensé que la musique pouvait être, et je crois qu'elle l'est, un autre personnage dans un film, qui dialogue avec les autres personnages. C'est pas une chose pour embellir le film, ou pour faire accélérer, comme on le fait souvent d'ailleurs, vous mettez de la musique pour accélérer le rythme du film. Ouais. Ça ne sert pas, à mon avis, ça produit le contraire. Par contre, c'est un personnage qui dialogue avec le film. Je l'ai fait, en tout cas, j'ai parlé de cela avec tous mes musiciens, et c'est vrai que la plupart du temps, je pense qu'on l'a réussi. Je ne sais pas si on l'a réussi toujours, mais je pense la plupart du temps qu'on a beaucoup réussi. Avec Sard, on l'a réussi parfaitement.
La musique intervient à quel moment dans la fabrication du film pour
La
vous
musique, pour ça moi, commence à jouer un rôle quand j'écoute le scénario. J'essaye des musiques.
Déjà.
J'écoute des musiques.
Bien avant après, le montage.
Absolument, donc. Avant le montage. Pendant le montage, j'essaye aussi d'en écouter. Et après, je fais intervenir aussitôt que possible le musicien pour faire éventuellement les montages ensemble, en tout cas pour lui montrer exactement ce que je vais faire et où je veux la musique. Voilà. Ouais. C'est comme ça que c'est passé. Beaucoup avec Armand Amar et dernièrement avec Alexandre Desplat.
Desplat, dont on va reparler tout à l'heure. Et puis aussi, tiens, on pourrait citer, je l'ai oublié, Vangelis.
On a travaillé une fois Vangelis.
Vangelis, dans votre film.
Oui, oui, dans le film américain.
Missing, qui a fait un grand scandale aux États-Unis.
Oui.
Voilà. Philippe Sard, vous disiez, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup travaillé.
Oui, on a travaillé, on a fait 3 films avec ça, Philippe, oui.
Vous étiez en affinité particulière.
Complète. Ouais. Voilà. J'ai même réussi une fois, on a tellement travaillé ensemble, de l'amener, ce qu'il ne faisait jamais avant, en Hongrie pour écouter la musique hongroise et voir des spectacles hongrois pour voir comment utiliser la musique.
Voilà, parce que c'est une chose qui m'a frappé, c'est que quel que soit le musicien, bien souvent, vous aimez aller vers des sources musicales ou des couleurs de musique traditionnelle.
Mais vous savez, la musique classique, des grands musiciens classiques ont commencé comme cela aussi. Ça.
Oui, c'est vrai. Oui.
Ah oui, prenez Brahms, prenez Chopin, un peu tous. Enfin, beaucoup, beaucoup.
Mais vous aimez bien que vos musiques soient ancrées dans les... Voilà,
la
dans
musique
les,
est sortie du peuple, toujours. Elle est sortie du peuple, et puis après, naturellement, elle s'est anoblie, elle a pris d'autres caractéristiques, elle a pris une autre identité même. Mais sa base, c'est quand même le peuple, c'est la musique du peuple. Le boum, 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 boum de l'Antiquité,
voilà,
si je puis dire.
Alors, dans un genre très différent, on va écouter, vous allez nous dire peut-être pourquoi vous aimez tellement cette musique, hein, un extrait des Vêpres siciliennes, chanté par Maria Callas.
J'aime beaucoup la musique, d'abord c'est Callas, oui, que j'adore, et puis c'est aussi la musique de Bel Canto, qui est une grande musique aussi, oui, voilà, qui, je crois, a influencé énormément le cinéma américain. Si vous prenez tous les grands musiciens américains des années 30, quand on a mis de la musique dans les films directement, ils sont beaucoup influencés. Hein.
vous me faites un grand plaisir, Costa Gavras, avec ce choix, l'air d'Elena au cinquième acte des Vêpres siciliennes de Verdi. Encore une gloire de la Grèce, d'ailleurs, Maria Callas.
Surtout une grande, grande chanteuse, quand même.
Oui, bien sûr.
C'est vrai, d'origine grecque, mais enfin, surtout une grande chanteuse qui a bouleversé, je pense aussi, le chant classique. Avec sa façon de chanter et de jouer comme une actrice. Ce qu'on ne faisait pas avant.
Les Grecs en sont fiers de Callas.
Oui, bien sûr, oui. Peu à peu. À l'époque, ils ne savaient pas trop, mais maintenant, ça y est.
Elle est inscrite au Panthéon. Alors, j'ai prononcé tout à l'heure le mot d'engagement, et vous avez dit, il faut qu'on creuse cette question, parce que c'est vrai que de Z à État de siège, en passant par l'aveu, etc., il y a souvent un contexte politique très fort dans vos films, et même quand ce n'est pas politique, c'est social, la société, les rapports sociaux, les rapports de classe, tout ça est important dans votre œuvre, vous qui avez été par ailleurs, par certains aspects, un compagnon de route de la gauche. Est-ce que vous êtes un cinéaste engagé, Costa Gavras?
Mais je ne sais pas trop ce qu'il veut dire engagement, mais enfin, on est, si vous voulez, tous les cinéastes engagés. À partir du moment où on s'adresse à des milliers de gens avec ce qu'on fait, ou des millions parfois de gens, on a un certain engagement, évidemment. Alors, vous dites des films politiques. Moi, je pense qu'ils les sont tous politiques. Je pourrais analyser un film politiquement. Parce que le film s'adresse directement à quelque chose de très sensible à nous. Mais en même temps, les films ne sont pas des discours politiques, ils ne peuvent pas être des discours politiques. C'est des spectacles, ce n'est pas des discours académiques non plus. Voilà. Donc, on a une responsabilité énorme de raconter des histoires, provoquer de l'émotion autant que possible, et les bonnes émotions humaines qui sont le haïr, aimer, pleurer, rire. Et tous ces bons sentiments qui font, qui complètent la vie, qui font que nous vivons avec, et faisons des choses avec. Voilà, c'est ça le cinéma, c'est ça l'art d'une manière générale. Le cinéma a l'avantage de pouvoir voyager, de pouvoir aller plus facilement chez tout le monde, enfin chez beaucoup de monde. Ce qui n'est pas tout à fait le fait de la littérature, ni de la peinture, etc. La musique aussi a cet avantage, mais elle n'est pas aussi directe, elle est indirecte. Le cinéma, c'est, on voit des gens qui vivent, qui font comme nous faisons, nous, comme ça. Voilà.
On peut dire, par exemple, quand même que Clair de femme est un film moins politique que L'aveu ou État de siège.
Oui, mais il s'agit d'amour.
Oui.
Il s'agit d'amour et l'amour, c'est aussi politique. Surtout, dans ce cas particulier, c'est pour ça que ça m'a plu le film, c'est qu'il parle des gens qui ne sont pas amoureux, qui ne sont pas d'amour, mais qui sont malheureux.
Voilà.
Et qui veulent trouver une solution.
C'est vrai.
Ils veulent profaner les malheurs, comme ils disent. Et profaner les malheurs avec quoi? Avec l'amour.
Voilà, et c'est ce merveilleux.
Il y a quelque chose d'humain là. Tout ce qui est humain, à mon avis, touche la politique directement, touche les pouvoirs.
Voilà, avec Romy Schneider et Yves Montand. Évidemment, on ne l'a pas oublié. D'ailleurs, pour aller dans l'autre sens, ce qui me frappe aussi souvent dans vos films, Costa Gavras, c'est que vous avez peut-être pas de la sympathie, mais enfin une empathie avec des personnages qui sont souvent complexes, voire mauvais par certains aspects. C'est pas les bons contre les méchants. Hein.
Non, parce que je ne crois pas. C'est vrai qu'il y a des bons et des méchants dans la vie, mais je pense qu'on peut trouver partout des bons et des méchants.
Ouais.
Nous savons tous un moment où nous sommes très bons, un moment où nous sommes méchants.
Ouais.
Voilà, cette espèce de relation qui est extraordinaire dans la vie, c'est ça, de ça que j'essaye de parler. Et surtout, le pouvoir que ça nous donne. Parce qu'on a tous des pouvoirs sur quelqu'un, comme il y a beaucoup de gens qui ont du pouvoir sur nous. Et l'utilisation de ces pouvoirs fait que nous sommes malheureux ou heureux. Voilà.
Ah.
Essentiellement, moi, mes films, tout au moins, ce qui me touche profondément dans la vie, c'est d'abord la résistance et le pouvoir. Ces choses-là qui font que nos sociétés sont démocratiques, elles ne le sont pas. Et rendre la vie facile, une rendre impossible, difficile.
Alors, vous êtes, après tous ces films qu'on a évoqués, vous êtes parti aux États-Unis parce que les États-Unis vous ont appelé, comme ils l'ont fait avec un certain nombre de cinéastes européens, pour une carrière américaine, si j'ose dire, marquée par des films, justement, comme Missing, là, qui était encore presque une provocation politique, hein, mais qui a eu un grand succès avec Jack Lemmon. Et puis, d'autres films qui ont suivi. J'en ai revu un récemment merveilleux qui s'appelle Mad City. Et où vous avez fait tourner ensemble John Travolta et Dustin Hoffman dans une histoire de braquage de banque ratée, enfin, si on peut dire. C'était une belle aventure, j'imagine.
C'était une très belle aventure. Avec ces deux grands monstres du cinéma américain. Mais permettez-moi de corriger une petite chose que vous avez dite. Je ne suis pas parti aux États-Unis. Les États-Unis m'ont demandé d'aller faire des films, mais j'y suis allé juste pour faire des films et je suis revenu en France.
À chaque fois, vous êtes revenu, oui, c'est vrai.
Je suis revenu et je travaillais avec mes équipes françaises. Et j'ai fait la post-production en France. Je ne voulais pas m'installer aux États-Unis pour devenir metteur en scène américain ou je ne sais pas quoi. Non, je vais faire ces films parce que les histoires me touché profondément, mais je n'ai jamais quitté la France, si je voulais. Voilà. Mais c'est vrai qu'il travaillait avec ces monstres, c'était une joie et une inquiétude à la fois. Une inquiétude au début, quand ils ont dit ils vont travailler avec vous, etc. Je me disais, devant quoi je vais me trouver. Et ça s'est passé toujours très très bien. Surtout avec ces deux grands colosses du cinéma, c'était une vraie joie.
Voilà, ce film est, on peut dire, une critique des médias, puisque c'est une affaire de prise d'otage dans une banque, mais qui est retransmise en direct à la télévision. Et c'est Dustin Hoffman qui est le journaliste, Travolta étant le preneur d'otage. Vous lui aviez proposé, en fait, l'autre rôle à l'origine. Hein. C'est lui qui a voulu finalement faire le...
Oui, parce qu'on a fait une répétition du scénario, une lecture du scénario avec lui et Jude Law qui faisait, le preneur d'otage. Et à la fin de la lecture, John me dit, ce que tu dis, Jude Law, moi, ça m'intéresse beaucoup, je voudrais faire ce rôle. Est-ce que tu veux. Je dis, mais John, c'est complètement de ce que vous faites d'habitude. Il me dit, moi, ça m'intéresse. Et c'est comme ça qu'on a changé de rôle. Voilà. Et ça a été, il était ravi, d'ailleurs, à la fin du film.
Et c'est là qu'on voit qu'au fond, vous êtes aussi, même dans la tragédie, parfois capable de donner des films qui ont une forme aussi de comique.
Ah, mais je crois beaucoup. Pas le comique, mais la comédie, en tout cas. Je pense que la comédie est essentielle dans nos vies. Ouais. Et si je peux introduire, sans forcer, dans un film, un peu d'ironie, un peu d'humour, un peu de sourire, je le fais avec plaisir. Voilà. Mais il faut que ça soit lié à l'histoire.
Bien sûr. Aux États-Unis, vous avez également tourné un film qui s'appelle Music Box. Et dans Music Box, il y a une merveilleuse musique d'un artiste que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est Armand Amar. Je voudrais que vous nous en disiez un mot. Et on va écouter ensuite une de ses autres musiques extraites du couperet.
Amar, c'est quelqu'un que j'ai découvert. Il faisait dans un spectacle de danse. Oui. Et j'ai trouvé sa musique, l'utilisation de ses instruments, formidable. Oui. Et je l'ai rencontré, je lui ai dit, est-ce que vous voulez faire du cinéma? Il n'avait pas fait encore. Et voilà, et il a fait, c'était formidable ce qu'il a fait.
Voilà,
et là, c'était un peu difficile au début pour lui, pour s'adapter vraiment.
Il n'avait pas ce métier du cinéma.
Il n'avait pas cet esprit, c'est-à-dire de faire des mélodies d'une longueur juste à un dixième du seconde près, à un 24e du seconde près. Et bien, c'est formidable, il a fait une très belle musique, on a fait combien? 4 films ensemble.
Voilà, là c'est la valse du couperet. Thank you. La musique d'Armand Amar pour le couperet, un film superbe, récent de 2005. Hein. Merveilleuse musique, oui, Costa Gavras.
Avec José Garcia, il fallait trouver une solution à cet homme qui va devenir assassin pour trouver un travail.
C'est ça,
qui
il décide de tuer tous ses concurrents.
Ses concurrents, il y en a cinq, il faut les éliminer. Alors chaque fois, il ne veut pas les tuer, mais il faut qu'il aille quand même. Il fallait trouver une musique un peu ironique, en même temps triste et mélancolique, je dirais. Alors je pense que là, Armand a trouvé les deux solutions. C'est ce que je disais précédemment, accompagner, dialogue avec l'acteur. Voilà.
Ce sujet, hein, c'est un film à la fois sombre, noir, par certains côtés, et en même temps avec des éléments de comédie, parce que cette idée loufoque d'aller assassiner tous ses concurrents, pour d'ailleurs qu'il lui arrivera peut-être la même chose à lui-même à la fin.
Absolument. En plus, il est très maladroit pour faire ça.
Oui.
C'est ça qui est intéressant.
Un très beau film, alors français pour le coup, hein, que vous avez fait avec José Garcia. On peut pas évoquer tous vos films, et je pourrais citer aussi Amen dans ces dernières années. Oui. Magnifique film. Là encore, sur un personnage complexe et ambigu, puisque c'est ce SS qui a essayé d'alerter tout le monde sur
des camps de concentration. Il découvre les camps de concentration et il alerte autant de gens qu'il peut. Et il finit par les payer par sa vie d'ailleurs à la fin.
Oui, parce que pour ne pas se faire démasquer, il joue le jeu.
Il joue le jeu du
génocide. Et voilà encore un film que vous évoquez, je le disais dans ce livre de souvenirs, Costa Gavras, va où il est impossible d'aller. Une phrase qui vous est chère, hein, qui vient de.
Et Kazantzakis, les grandes. Enfin. Je l'ai adapté un tout petit peu, mais ça vient quand même essentiellement du grand écrivain Nikos Kazantzakis, qui est un grand écrivain grec.
Voilà. Et dans ce livre, vous revenez donc sur votre parcours. Vous avez décidé un jour, tiens, je vais écrire mes mémoires, ou c'est l'éditeur qui vous a sollicité?
Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant des années, toujours on dit que moi j'ai fait des films politiques, Alors, c'est comme si j'avais un programme de films politiques.
C'est
complètement faux. Alors j'essayais avec ce livre, de parler un tout petit peu de moi, mais surtout de parler comment naissent les films, l'un après l'autre, dans les détails. Donc je l'ai décrit complètement dans le détail, et j'espère que ce sera de penser que j'ai un programme de films politiques.
Bien
les
sûr.
Films, c'est des passions.
Oui.
Sinon, on ne peut pas faire des films vraiment correctement. Il faut avoir la passion, vivre avec eux 2-3 ans s'il le faut, comme le dernier, et puis, voilà, il arrive ce qu'il arrive au film. Mais il faut le faire avec la passion, et ça n'est pas un boulot comme tous les boulots. Voilà.
Avec l'amour des personnages et de leur complexité, avec peut-être l'amour de la forme d'un film aussi, de tout ce que ça suppose comme fabrication.
Et aussi le respect. Le respect du spectateur basé sur l'histoire vraie. Parce que sinon, on peut manipuler d'une manière la plus terrible, la plus négative aussi.
Voilà. Et dans ce livre, alors vous nous livrez quantité d'anecdotes, de portraits. On y croise Romain Gary, qui a été quelqu'un d'important dans votre vie. Hein.
Absolument. Romain Gary, je l'ai connu beaucoup. Et puis un jour, j'ai décidé de faire Claire de Femme, son livre, parce qu'il a été bouleversé par toute son littérature. Je pense que Romain Gary, c'est un grand écrivain en France. Ouais. Parce qu'il a une truculence, une façon de voir la vie avec beaucoup d'humour et puis aussi avec beaucoup de drame derrière. C'est ce qu'il a vu complètement. Et ce qui m'avait touché dans ce film Clair de femme, c'est qu'il y a deux personnes qui veulent profaner les malheurs. C'est une phrase formidable. Et ils font tout pour s'aimer, ils font tout, parce qu'ils sont très malheureux tous les deux d'une manière différente, pour des raisons différentes, et que finalement, ils essayent de s'aimer. Mais je ne sais pas s'ils vont s'aimer ou pas à la fin. Mais je crois qu'ils vont s'aimer quand même.
C'est aussi Gabriel Garcia Marquez que vous avez bien connu, notamment au Mexique, quand vous tourniez là-bas.
Il est venu souvent au tournage pour voir comment tourner. Et puis, il a un souvenir formidable. Le matin, il m'a appelé. Il m'a dit, tiens, viens déjeuner avec moi aujourd'hui. On va fêter la victoire de Mitterrand. Dans la nuit, il a eu avant moi les résultats à Paris.
En 81.
En 81, voilà.
Garcia Marquez. Personnage aussi plus inattendu, même si on sait que vous avez tourné avec lui. Et Johnny Hallyday. Je ne sais pas comment vous avez eu l'idée de faire un film avec lui.
Je ne sais pas. C'est un moment comme ça. J'avais
conseil de famille.
Conseil de famille. J'ai cherché un acteur. Je ne trouvais pas un personnage. Et puis, je l'avais vu au film de Godard. Le film qu'il a avec Godard, à Cannes. Et je l'ai rencontré un jour dans un restaurant. Je lui ai dit, écoutez, j'ai un sujet à vous proposer. Est-ce que vous accepteriez? Ah, il m'a dit, avec vous, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et c'est parti comme ça. Et ça a été un vrai bonheur de travailler avec lui. Et Fanny Ardant.
Bien sûr.
Qui était vraiment un couple formidable. Et c'est une rieuse, il la faisait beaucoup rire. C'est bon.
Et puis alors aussi, Costa Gavras, dans ses mémoires, on voit aussi tout ce que vous avez fait, pour la Cinémathèque, qui est l'endroit où vous avez découvert le cinéma vous-même quand vous débarquiez de Grèce à Paris et vous en avez été président. Ça a été pour vous un vrai engagement aussi, hein, cette Cinémathèque.
Oui, la Cinémathèque s'est trouvée en une situation très négative et quand Jacques Lang est venu au pouvoir avec Mitterrand, je lui dis qu'il faut sauver la Cinémathèque. Il m'a dit, je te donne tout l'argent que tu veux pour là. Voilà. J'hésitais beaucoup, j'ai fini par accepter. Et c'est vrai qu'il nous a donné le moyen pour sortir du trou dans lequel était la Cinémathèque à l'époque. Et depuis, la Cinémathèque va de mieux en mieux.
Va de mieux en mieux. Et vous avez été d'ailleurs très présent là-bas, hein, toutes ces dernières années.
Oui, j'étais présent 5 années d'abord. Et puis après, je suis parti et pour m'appeler de revenir. Et là, je suis de la président depuis 12 ans. Mais enfin, je ne sers pas à grand-chose finalement, je crois. Ah bon. Il y a un personnel formidable. Ouais. Qui utilise tout cet extraordinaire matériel que nous avons à la Cinémathèque, et notamment les films, d'une manière formidable. Et un monde fou qui vient à la Cinémathèque, et c'est un grand plaisir.
Alors, Costa Gavras, on va écouter maintenant, avant d'en redire quelques mots, un extrait de la musique de votre nouveau film, Adults in the Room, une musique d'Alexandre Desplat.
Desplat.
Alexandre Desplat dans la musique d'Adults in the Room, ce film qui sort donc dans quelques jours, ce film qui raconte le face-à-face entre la Grèce et l'Union européenne dans la crise que nous avons tous malheureusement bien suivi. Mais d'abord, Desplat, ce grand musicien de cinéma d'aujourd'hui, c'est la première fois que vous travaillez avec lui.
C'est la première. Je me suis séparé de Amar parce que Desplat, il est à moitié grec.
C'est ça, sa mère était grecque.
Voilà. Il connaît parfaitement la musique grecque. Et j'ai voulu que dans cette musique-là, on introduise des instruments grecs que les autres musiciens n'aiment pas beaucoup introduire, comme les bouzouki, comme un des autres instruments, parce que les instruments classiques ne collent pas, je crois. Je n'ai pas compris pourquoi, mais il paraît qu'il y a des tons un peu différents, un tiers ou un quart, je ne sais pas quoi des tons, et il faut faire beaucoup de changements. Mais Desplat connaissait parfaitement. Je lui dis, est-ce que vous voulez le faire? Et il a accepté. Il nous a introduit ses instruments aussi. Et je pense qu'il a fait une très belle musique et qui correspond absolument à ce que je souhaitais.
C'était une collaboration heureuse.
Très heureuse.
Très heureuse. Alors, vous disiez, parfois, les films mettent des années avant de se faire. Et c'est amusant parce que à la fin de votre livre de mémoire, on voit que vous êtes déjà, depuis quelques années, depuis 2012, très plongé dans les affaires grecques. Vous savez pas encore vraiment ce que vous allez en faire, que ça va donner un film, ni sous quelle forme. Mais voilà, c'est un sujet qui tourne déjà dans votre tête.
Hein. Dès le début de la crise, c'est-à-dire à 2010... a commencé un drame pendant les mois qui ont suivi, un drame terrible en Grèce. On n'a pas su beaucoup de choses ici, en l'Est, sauf si on travaillait beaucoup, on lisait beaucoup, on allait beaucoup à la télévision, etc. C'est-à-dire, le peuple, tout d'un coup, il s'est trouvé du jour au lendemain avec des milliers et des milliers de gens sans travail. Ouais. Les salaires ont baissé énormément, 40 à 50%. Les taxes ont monté énormément. C'était tragique. Et alors, je suis allé, j'ai vu les gens, je parlais. J'ai voulu faire au début un grand film comme ça, sur l'espèce de malheur de ce pays. Et puis, je me suis aperçu très vite qu'il y avait quand même un autre personnage dont je voulais depuis longtemps parler, c'était l'Europe. Donc j'ai viré complètement.
Et vous avez fait donc
j'ai fait une sorte de tragédie, j'ai fait ce film-là.
Mais il faut dire qu'entre-temps aussi, on vous a proposé de devenir président de la République de la Grèce.
Oui, oui, oui.
Mais très sérieusement.
Et ministre du gouvernement.
Ça a été dans les journaux, etc.
Oui, et ministre du gouvernement est venu à Paris pour me proposer une chose très sérieuse. Il m'a expliqué pourquoi il voulait moi et puis comment. Et puis... Quand je suis allé en Grèce, il m'est venu de nouveau me le répéter. C'est vrai que c'est très émouvant qu'on vous demande des choses, des soucis énormes.
Oui.
Ça secoue profondément. Et puis j'ai réfléchi un peu, grâce à ma femme aussi.
Votre femme, quand vous lui en avez parlé, elle a dit « bof ». C'est pas mal pour une présidence de la République.
Non, puis je me suis aperçu que c'était pas du tout, c'était pas quelque chose que je pourrais faire, que je savais faire, et que j'étais cinéaste, et que je voulais rester cinéaste.
Voilà, et alors votre livre de mémoire se termine sur ce film qui est en chantier encore, en fait, mais entre-temps vous êtes tombé donc sur le livre de Varoufakis, voilà, donc vous avez décidé de faire le centre même de votre scénario. Hein.
Parce que ce livre m'a donné les parties que je ne connaissais pas, c'est-à-dire ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Europe. Ces rencontres énormes où... À la sortie de ces rencontres, on disait des choses mirobolantes. On disait, bon, on va sauver la Grèce, on va faire ceci ou cela, et rien n'est changé. Et puis quand j'ai rencontré Varoufakis, qui m'a donné le manuscrit de son livre, au fur et à mesure qu'il écrivait, je me suis aperçu ce qui s'est passé à l'intérieur. Et ce n'était pas propre.
Non.
Ce n'était pas net, et c'était d'une agressivité, d'une violence énorme.
C'est très violent, ces relations de pouvoir. On pourrait dire que vous donnez du grain à moudre aux eurosceptiques, d'ailleurs.
Malheureusement.
Et puis, il y a cet acteur excellent qui joue Varoufakis, qui est au cœur de la distribution.
Oui, oui, j'ai un acteur formidable que j'ai trouvé sur place, qui parle parfaitement le grec naturellement, mais aussi l'anglais, ce qui était nécessaire pour être compréhensible, parce qu'il dit beaucoup de choses dans le film. Il fallait qu'il soit vraiment très très clair. Et c'était un grand, grand acteur.
Vous pensez déjà au film suivant,
Costa
Gavras ?
Non. On verra. Vous savez, quand on vit avec un film 3 ou 4 ans, il faut le temps pour passer à autre chose.
Vous êtes anxieux, vous allez mercredi regarder les entrées dans les salles des Champs-Élysées
Malheureusement, je dois faire ça aussi, oui. Ce qui n'est pas le plus plaisant, mais on verra, parce que c'est toujours très angoissant. C'est des moments très angoissants, ils iront pas. Enfin bon.
Voilà, en tout cas, c'est un film qui nous donne beaucoup à réfléchir sur notre époque. Et puis, c'est du Costa Gavras, c'est un beau film où on se laisse emporter. Merci d'avoir été avec nous ce matin. J'avais envie, pour nous quitter, parce que ça, c'est dans vos mémoires aussi, vous dites qu'à un moment, vous emmenez Yves Montand à New York voir A Chorus Line. Alors, on a parlé d'Offenbach, mais vous aimez aussi la comédie musicale ?
Formidable. Les Américains, ils en font des belles.
Ouais.
Il y a un autre qui est magnifique aussi, Chicago.
Ouais. Et Chorus Line avec Montand.
Moi, j'avais vu deux ou trois fois Chorus Line.
Deux ou trois fois.
Oui, absolument. Parce que j'ai connu aussi le metteur en scène. Et c'était un plaisir de voir tous ces jeunes comme ça qui arrivaient, ils racontaient leur histoire d'une certaine manière. Ouais. Et puis qui se mettaient à danser.
Ouais.
Et c'était magnifique. Mais ça, c'est les Américains savent le faire bien quand même.
Oui, voilà. Oui.
Nous, on a fait, en France, on a fait toujours, pas toujours, mais on a fait souvent des comédies musicales, mais c'est de notre caractère.
Ouais.
On ne cherche pas la précision. Vraiment géométrique, je dirais, des Américains. C'est différent, mais c'est aussi très plaisant.
Voilà, une façon en tout cas de nous quitter joyeusement, et merci encore d'avoir été avec nous ce matin, Costa Gavras.
Merci à vous.
She's uncommonly rare, very unique, peripatetic, poetic, and chic. walks into a room, and you know from her that he points that for this world, she's a special girl strolling. Can't help all of her qualities extolling. Loaded with charisma is my jauntily sauntering Emily Chandler. She walks into a room, and you know you must shuffle along, join the parade. She's the quintessence of making the grade. What you call traveling. Oh, strut your stuff, can't get enough of her. Love her. I'm a son of a gun, she is one of a kind. One walks into a singular stellar shot, heavenly rare, very cheap, parasitic, poetic, and cheap. One she walks in.
Chorus Line, le final de cette célèbre comédie musicale sur la musique de Marvin Hamlisch, comédie musicale créée en 1975 et donnée 6137 fois d'affilée dans le même théâtre de Broadway. Je souhaite le même succès à mon invité qui a choisi cette musique. Mon invité, c'était Costa Gavras, qui en a connu des grands succès, mais je souhaite le même succès à son nouveau film qui sera dans toutes les salles à partir de mercredi. Ça s'intitule Adults in the Room. Thank you.
Ah, les trésors de la discothèque centrale de Radio France et le merveilleux travail accompli par toute son équipe, en tête Romain Couturier, grâce à qui j'ai redécouvert toute cette collection de disques. Je vous en avais déjà parlé, ça s'appelle Musicolor. C'est une série de vinyles de la fin des années 50 avec toutes les forces vives françaises, alors de la musique légère. Il y avait l'orchestre de musique légère de l'ORTF, il y avait la radio qui passait des commandes aux compositeurs qui se souviennent d'ailleurs de la formation classique ou de formation plus de variété, pour des pièces symphoniques comme celle qu'on vient d'entendre. Ça, c'est dans le Musicolor volume 2, l'orchestre de musique légère de l'ORTF, sous la direction de Paul Bonneau, qui jouait cette pièce intitulée « Souvenirs de vacances » de Fred Fried. Fred Fried, en fait, il s'appelait Friedrich Goldbaum, mais c'était un compositeur autrichien venu en France à l'époque où on aimait bien donner au nom des consonances anglaises ou américaines pour montrer qu'on était un peu plus moderne. Friedrich Goldbaum, alias Fred Fried, né en 1903, mort en 1983, qui a fait beaucoup de musique, de films, de chansons et donc aussi de musique légère comme on vient de l'entendre à l'instant.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis, pour terminer ce programme musical et pour mon bon plaisir, sans aucune autre raison, et pour votre bon plaisir, j'espère aussi, je voudrais qu'on s'arrête un peu à un compositeur d'opérette parmi beaucoup d'autres, un des grands maîtres français de l'opérette du 19e siècle, c'est Monsieur Edmond Audran.
À Piombino.
Le grand singe d'Amérique qui revient à Piombino.
Pris soudain d'une colique, vient s'échapper subito.
Pris soudain d'une colique, vient s'échapper subito.
Cet animal exotique est, dit-on, des plus méchants. Aussi font voir la panique qui règne chez les habitants. Chacun se demande en tremblant.
Chacun se demande en tremblant.
Vous n'avez pas vu Laurent.
Vous n'avez pas vu Laurent.
Outan !
Outan !
Il tremblait donc pas comme ça. On le rattrape, on le rattrape. Il tremblait donc pas comme ça. On le rattrapera.
Il tremblait donc pas comme ça. On le rattrape, on le rattrape.
Jeune Zerline, une fillette qui n'avait pas peur.
Cependant, la jeune Zerline, une fillette n'avait pas peur.
S'en fut seule à la sourdine au rendez-vous d'un sapeur.
S'en fut seule à la sourdine au rendez-vous d'un sapeur.
Mais hélas, à la nuit close, lorsqu'on la vit revenir, la petite avait l'air tout chose et ne cessait de gémir. Elle soupirait en pleurant.
Elle soupirait en pleurant.
Elle avait peut-être vu Laurent.
Elle avait peut-être vu Laurent.
Outan !
Outan !
Et la belle disait tout bas, on m'y rattrape, on m'y rattrape. Et la belle disait tout bas, on m'y rattrapera pas.
Et la belle disait tout bas, on m'y rattrape, on m'y rattrape. Et la belle disait tout bas.
Et voilà une des pages les plus célèbres d'Edmond Audran dans ce bel enregistrement où l'on retrouve notamment Nadine Renaud, Liliane Berton et toute la troupe d'ailleurs de Radio Lyrique sous la direction de Jules Gressier. La page la plus célèbre d'Audran, c'est le fameux duo des dindons et des moutons, mais ça vous le connaissez peut-être un petit peu trop, alors je vais pas vous le passer aujourd'hui, mais cette chanson de Laurent Houtan, elle était aussi entrée dans les mémoires parce qu'en fait on se moquait d'un roi qui s'appelle Laurent et c'est Laurent Houtan, on s'en moque sans s'en moquer en faisant semblant de se moquer d'un singe. C'est extrait de La Mascotte, la plus célèbre opérette d'Audran qui date de 1880. Et il faut dire que Audran, on l'associe souvent à Planquette et à Varnet dans cette génération de compositeurs des années 1880 qui ont suivi Offenbach et Lecoq et qui ont connu des succès populaires immenses en France et dans le monde entier. Mais je trouve que de tous ces compositeurs, eh bien, Audran est peut-être le plus raffiné. On va en juger immédiatement de ce raffinement dans un autre extrait de La Mascotte et chanté par le délicieux Claude Devos.
Des courtisans qui passeront, approchez-vous avec qu'adresse, vous verrez ce qu'ils vous diront. Si vous parlez de la comtesse, et si par hasard vous voulez défendre une vertu si pure, chacun en vous riant au nez vous répondra que la chose est sûre. Mon cher, que vous êtes naïf, mais vrai, le fait est positif. Entre nous, c'est ce qu'on appelle le secret, le secret, le secret de Palichinelle. Bettina, vous le savez bien, n'était pas de noble famille. Mais si Bettina n'avait rien, c'était une superbe fille. Voyons si le prince un beau jour l'arrache à son milieu rustique et la fait venir à la cour. Est-ce pour cause politique? Mon cher, que vous êtes naïf, mais vrai, le fait est positif. Entre nous, c'est ce qu'on appelle le secret, le secret, le secret de Palichinelle.
Les couplets de Fritellini, toujours dans la mascotte d'Edmond Audran, qui avait fait d'ailleurs de très bonnes études musicales à l'école Niedermeyer à Paris, et qui, avant même le triomphe de la mascotte, avait connu un grand succès avec Le Grand Mogol, dans lequel figure ce ravissant duo.
Ce beau palais de Delhi, puisqu'à venir on nous engage, nous accourons et nous voici avec notre petit bagage.
Là-dedans sont les instruments du beau métier que j'exerce.
Dans ce carton sont les serpents faisant aller mon commerce. Dans cette cage on se rend peu de lui qu'on peut l'entraîner.
J'apporte-moi ce panier plein d'un joli vin de sirène.
Dans ce beau palais de Delhi, puisqu'à venir on nous engage, nous accourons et nous voici avec notre petit bagage.
Maintenant, plus rien dans les mains, dans les mains ni dans les poches.
Du bijou dans de beaux écrins, pas plus que l'eau de sa poche. L'insouciance et la gaieté sont le seul bien en revanche.
On rit et chante en liberté, pour nous c'est toujours dimanche.
Dans ce beau palais de Delhi, puisqu'à venir on nous engage, nous accourons et nous voici avec notre petit bagage.
Oh, 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 oh,
puisqu'à venir on nous engage, et voilà.
Annick Simon et Aimé Donia dans ce duo extrait du Grand Mogol. On va terminer avec Audran et La Poupée, une de ses dernières opérettes qui date de 1896. Un document très rare encore de notre discothèque, cet air de La Poupée chanté par Sim Viva.
Je sais entrer dans un salon, je sais faire la rivière.
la gavotte, voyez mon sac à danser, comme il suit toujours la note, sans que le temps soit pressé.
La poupée d'Edmond Audran, chantée par Sim Viva sur un disque 78 tours Odéon. On se quitte avec James Brown et on prend avec lui le train de nuit.
All aboard for Night Train! We'll be right back.
Voilà, avec le merveilleux James Brown se referme cet épisode d'Étonnez-moi Benoît. Aujourd'hui, c'était Annie Comier qui avait préparé l'émission, Audrey Guélil à la technique, Ludovic Auger et Christine Amado pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine avec Hubert de Jacques, un homme merveilleux qui a été le musicien, le proche, on disait parfois le cinquième frère Jacques, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Il sera donc avec nous samedi sur France Musique, bien entendu, où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.